Chase you out of earth.
Yeah. Radio G. www.radio-g.fr.
This is how it starts. Vous êtes toujours sur le 101.5 FM de Radio G. Tout de suite, c'est votre émission sportive de la semaine, puisque tout de suite, c'est Génération Sport. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio G pour cette nouvelle émission de Génération Sport. L'équipe est toujours eh bien au complet puisque Cédric est là. Bonjour à toi Cédric.
Salut à tous.
Et puis je laisse le temps à Max de s'installer. Max, bonjour à toi.
Bonsoir Alex et bonsoir à tous les auditeurs de Radio G.
Et donc aujourd'hui au programme de cette nouvelle émission sportive, eh bien on va évidemment faire le traditionnel 1-2 avec Max, et puis après on aura chacun notre petite chronique, et puis on reviendra sur un peu toute l'actualité. On reviendra sur Cédric, tu nous parleras de F1, c'est ça?
Ouais, et surtout de la FIA.
Et puis Max, tu nous parleras du Ballon d'Or qui va être bientôt décerné.
Oui, c'est ça, on a vu cette semaine la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, et il y a de quoi parler.
Ok, oui.
Effectivement, on pourra revenir un peu dessus. Et quant à moi, je vous présenterai une nouvelle rubrique qui va sûrement revenir au fil de la saison. Je vous parlerai des pépites françaises, c'est-à-dire des sportives et sportifs français qui vont dans le futur faire parler d'eux, voilà, des jeunes espoirs du sport français. Voilà, ce sera sûrement en fin d'émission. Sans plus tarder, Max, je vais te laisser débuter le fameux 1-2.
Oui, et on va parler des Ducs d'Angers qui jouaient la semaine dernière, mardi dernier, hein, pendant notre émission. Ils affrontaient Pontoise, c'était à domicile, et il y a eu une très belle victoire, 5-1. Cédric, est-ce que tu as eu l'occasion de voir le match, ou alors est-ce que tu as vu des résumés?
Non, j'ai vu juste les stats du match. Ouais, encore une belle victoire à domicile.
Ouais, et donc ce qui classe les Angevins à la 3e place de cette Ligue Magnus avec un match de retard sur les deux premiers. Et justement, hein, si on parle de Ligue Magnus et des Ducs d'Angers, on rappelle que donc ce soir, mardi 12 octobre, c'est dans un peu plus de 20 minutes que les Angevins retrouvent une fois de plus la Ice Park pour un match face au Gothique d'Amiens.
On va donc continuer cette chronique par la performance majeure du week-end. C'est la folle remontada que l'UFAB a effectuée samedi soir à la salle Jean Bouin face à Tarbes. Constamment menée face aux Tarbaises lors des trois premiers quart-temps, Angers va reprendre les devants pour la première fois de la rencontre à 2 minutes de la fin du match. À 71 partout, c'est alors que les deux équipes doivent se départager en prolongation. Vous l'avez compris, ce seront les joueuses de l'UFAB qui auront le dernier mot, notamment grâce à Iva Zlonjak, la Slovène MVP du match, et donc l'UFAB qui va ponctuer cette deuxième victoire consécutive. Retour du public dans les travées de la salle Jean Bouin aura été décisif pour le premier match à domicile des Angevines de leur saison en LFB. L'UFAB est donc invaincu en ce début de saison, tout comme l'EAB, également à 100% de victoire depuis le début de leur championnat. La dernière victoire en date remonte à vendredi dernier sur le parquet de Lorient, et il s'en est fallu de peu puisque les hommes de Sylvain Delorme l'ont emporté sur le fil des 73-71 face aux anciens Angevins, notamment donc Ibrahim Jumbo ou encore Felipe Braga. En ce moment même, l'Étoile tente de réaliser la passe de 4 à domicile contre l'Aurore Vitré. Et donc, évidemment, on vous tiendra informé informer tout au long de l'émission de l'évolution du score de la rencontre. Et puis un petit point également du côté de Cholet, les basketteurs du CB ont quant à eux connu leur première défaite de la saison en Betclic Elite contre Orléans 88-81.
Et on continue cette page d'actualité locale. On va refaire un point sur le SCO d'Angers. Il n'y a pas eu de match ce week-end et vous le verrez, on va parler dans la page football des actualités internationales. On va évoquer la Ligue des Nations et la trêve internationale justement. Mais on va refaire un point sur le dernier match en date du SCO d'Angers avec cette belle victoire 3-2 face à Metz. C'était dimanche dernier, donc dimanche 3 octobre, victoire 3-2 face à Metz qui classe finalement les Angevins à une très belle 4e place au classement. Et puis la prochaine rencontre des Angevins, ce sera tout simplement vendredi qui arrive, vendredi à 21h. Ce sera un très gros déplacement en terre parisienne puisque les Angevins se déplaceront au Parc des Princes pour y affronter un Paris Saint-Germain qui n'en finit plus d'étonner en Ligue 1.
En handball, Angesco connaît un début de saison vraiment compliqué. Seulement une victoire depuis le début de la Pro League et surtout plusieurs grosses défaites qui posent question. Les Angevins avaient déjà connu une sévère claque lors du déplacement à Potocombo la semaine dernière. Et ce vendredi, les joueurs de Guillaume Dupin ont de nouveau sombré à domicile contre Célestat. Les Noirs et Blancs se sont très vite retrouvés menés au score dans la rencontre et ont peu à peu laisser les Alsaciens prendre le large. Au final, une lourde défaite, 35-23, qui fait évidemment du mal au moral d'un groupe encore très jeune qui cherche encore certains automatismes. Les scoïstes sont désormais dans la zone de relégation à la 15e place. Leur prochain match, déjà un rendez-vous décisif pour la suite de la saison, puisque les Angevins doivent affronter une nouvelle équipe alsacienne, bien moins en forme que Célestat. En effet, vendredi prochain, le SCO se déplace à Strasbourg, lanterne rouge du championnat, dans un match très important pour le maintien. Et puis un dernier mot de football avec le SO Cholet qui a de nouveau remporté sa rencontre de national face à Orléans, une victoire 3-1 avec des buts de Lo, Le Méoté et Ruffo. Le SO Cholet qui remonte à la 7e place.
On ouvre notre page d'actualité mondiale et internationale avec le football et cette trêve internationale que nous avons pu vivre. Si certaines équipes peuvent jouer leur qualification pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France était encore en lice dans la Ligue des Nations et participait d'abord aux demi-finales face à la Belgique. C'était jeudi 7 octobre dernier et les Bleus ont très mal commencé ce match avec un retour à la mi-temps à 2-0 pour les Belges, des buts signés Yannick Carrasco et Romelu Lukaku. Finalement, l'équipe de France est revenue avec de bien meilleures intentions et l'a finalement emporté sur le score de 3-2 avec des buts signés Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Et donc l'équipe de France, avec cette demi-finale remportée, a réussi à se qualifier pour la finale de ce même tournoi, la Ligue des Nations. C'était dimanche dernier. L'équipe de France y affrontait une très séduisante équipe espagnole et le schéma s'est répété. Le schéma a été le même, une équipe de France bousculée avec une ouverture du score à la 64e minute de jeu de la part de l'Espagne. Et puis derrière, c'est pareil, on reprend les mêmes acteurs, Karim Benzema et Kylian Mbappé, pour permettre à l'équipe de France de remporter son premier trophée depuis la Coupe du Monde 2018.
On en retourne au basket avec un petit mot de l'Euroleague, la fameuse compétition prestigieuse européenne avec une phase régulière et une phase de play-off. On rappelle que les seules équipes françaises parmi les 18 écuries du continent figurant donc dans la compétition sont l'ASVEL et Monaco. Le club de Tony Parker qui a d'ailleurs entamé la phase régulière de la meilleure des manières avec 2 victoires en 2 matchs, tout comme la formation du Rocher, également invaincue depuis le début de la saison. La 3e journée d'ailleurs ce soir, avec notamment un choc entre le Real Madrid du français Thomas Hurtel et les Monégasques. Lyon-Villeurbanne de son côté reçoit l'Efes Istanbul. Pour l'instant, les Français sont menés 14-20. Chez l'Euroleague féminin, les formations françaises n'ont quant à elles disputé qu'un seul match chacune. L'AT Montpellier a triomphé de Prague 75-74 lors de la première première journée et doit désormais défier les Hongroises de Schreckjard demain, tandis que Basketland a été humilié par les Italiennes de Scio 96-56, donc à l'occasion de la première journée, et elles défieront Fenerbahçe demain.
On va faire un petit point tennis avec le Master d'Indian Wells. Il y a encore un Français en compétition, ce qui est assez étonnant au vu de l'avancée de ce tournoi. C'est en 16e de finale. D'abord, dans ces 16e de finale, c'est ce soir, il y aura un très gros match entre Andy Murray et Zverev. Et donc, du coup, le dernier Français en compétition, c'est Gaël Monfils qui s'est qualifié pour les 16e de finale et qui jouera son match cette nuit, donc à 3h du matin plus précisément, face au Sud-Africain Kevin Anderson. Et en autre 16e de finaliste, on retrouve notamment Tsitsipas qui affrontera Fonini, ou encore le numéro 1 mondial Medvedev.
On va terminer le 1-2 par du handball. Un petit mot du championnat de France, hein, le fameux Likimoli Star League. À noter donc les résultats de ce week-end. Le PSG l'a de nouveau emporté contre Nîmes 32-25. Hein, Nîmes qui fait pourtant un très bon début de saison. Les Nîmois ont donc chuté à domicile face au leader du championnat. Et puis Montpellier qui n'en finit plus de perdre des points précieux dans la quête de l'Europe, avec donc une nouvelle défaite du côté de Cesson-Rennes pour Montpellier qui au classement dégringole à la 10e place. Le HBC Nantes n'est pas loin avec donc une 8e place, et évidemment toujours premier c'est le Paris Saint-Germain devant les Nîmois. Et puis un petit mot de Ligue des Champions, puisque ça va arriver très bientôt, puisque déjà dès demain les Montpellierains se déplacent du côté du Vardar Skopje, tandis que du côté du PSG dans le groupe B, les Parisiens auront l'occasion de remporter de nouveaux points face aux Ukrainiens de Zaporozhye. Voilà donc à faire suivre pour les clubs français en Ligue des Champions de handball. Voilà ce qu'on pouvait dire sur toute l'actualité locale et internationale. On va maintenant laisser la parole à Cédric pour nous parler de sa chronique. Cédric, tu vas nous parler Formule 1 aujourd'hui.
Oui, et plus précisément un peu d'un point de vue règlement, puisqu'on sait que cette année, c'est très compliqué de comprendre la F1. Non pas que les règles de base ont changé, mais... il y a des aménagements de règles qui se font en cours de saison, qui se font selon les équipes, selon les pilotes. Donc, on a en droit de se poser la question si la FIA n'est pas tout simplement en train de tuer ce qui faisait le charme de la F1, c'est-à-dire la compétition plus pure et surtout le côté qu'on laisse les pilotes conduire, quoi, et surtout se battre. Puisque ce week-end, donc, il y avait le Grand Prix de Turquie, Grand Prix somme toute inintéressant, j'ai envie de dire, pour pas changer hélas, puisque avec le mauvais temps, on n'a pas vu forcément de grandes actions de dépassement. Il y a eu des beaux dépassements quand même malgré ça, mais il y a eu ce litige au démarrage pour Pierre Gasly qui se retrouve avant le premier virage tassé entre deux voitures, et du coup touche malheureusement Alonso, donc il le sort. Alonso se retrouve derrière. Quelques tours après, Alonso va faire à peu près la même erreur sur Schumacher, donc les deux accidents sont sous enquête. Bizarrement, c'est le deuxième accident qui a été jugé en premier. Donc Alonso prend 5 secondes de pénalité. Et dans la foulée, on apprend aussi que Gasly prend 5 secondes de pénalité. Or, si on suit l'idée du premier tour et du règlement, il n'aurait pas dû être sanctionné, puisque c'est considéré comme un fait de course. Donc, étant donné la situation où il était placé, il n'y a pas forcément attention de sa part de sortir son adversaire. Sauf que ce qu'on voit, c'est que du coup, la FIA rame un peu pour justifier son choix. Et donc, les 5 secondes ont été faites. Mais voilà, ça a un petit peu ruiné sa course. C'est pas le premier cas, hélas. On sait que le week-end d'avant, il y avait eu déjà des litiges vis-à-vis de la politique d'arrêt au stand de McLaren, qui s'est fait avoir... à cause du coup de Mercedes qui a fait sortir les, les mécaniciens de Hamilton et les a fait rentrer, ce qui du coup a semé le trouble. Et je crois que c'est Ricciardo qui rentre du coup, et du coup perd du temps par rapport à Hamilton. Hamilton lui repasse devant, enfin voilà. Or, de base, c'est interdit. Sauf que ce week-end, on a appris que non, ça avait été autorisé, c'est dans les règlements, sauf qu'apparemment, personne n'était au courant. On sait qu'il y a eu les accrochages entre Hamilton et Verstappen qui ont été jugés avec, je dirais, deux poids, deux mesures. On sait que, par exemple, pour l'accident en Angleterre, Verstappen a dû changer son moteur. Du coup, il a utilisé, c'était son deuxième. Il a utilisé le troisième d'affilée suite à un nouvel accrochage. On sait que maintenant les moteurs sont limités dans la saison. Il a dû changer de moteur à nouveau pour être sûr de pouvoir finir la saison. Donc il a écopé d'une pénalité. Il se retrouvait dernier sur la grille de départ. Sauf que ce week-end, Hamilton a changé son moteur, mais pas complètement, juste certaines pièces. Et du coup, il a eu le droit de 10 places de pénalité sur la grille. Sauf que dans ces cas-là, il faut m'expliquer quelle est la différence entre changer tout bloc moteur et changer juste une pièce. Ça impacte forcément sur la performance et sur la durée de ton moteur. Donc on voit, alors c'est prévu dans le règlement, c'est des ajustements, mais voilà, enfin on voit que la FIA, depuis un moment, ils cherchent plus à aller faire du sensationnel, ramener un maximum de monde, prendre l'argent, que de laisser vraiment les pilotes s'exprimer. Et là, apparemment, il y a encore une nouvelle réforme qui est dans les tuyaux. Donc, on a vu, ils ont changé les méthodes de ravitaillement. Maintenant, c'est 100% automatisé. On ne peut plus faire comme avant. Enfin, c'est... Bientôt, je crois qu'ils vont remplacer les pilotes par des robots, et puis ce sera des petites voitures téléguidées, je ne sais pas ce qu'ils nous font, mais en tout cas, l'essence pure de la course, on le perd de plus en plus, alors qu'on a quand même un beau championnat en termes de
suspense.
De suspense cette année.
Avec le fameux duo, en tout cas le duel.
Verstappen-Hamilton. Hamilton, d'ailleurs, Verstappen reprend la tête.
C'est ce que j'allais dire.
Quelques points. Donc,
Verstappen, donc, qui est désormais devant Hamilton avec donc 262,5 contre 256,5. Je crois qu'Hamilton a fait 6e.
Cinquième.
Et Verstappen accroche le podium.
Il fait deuxième, ouais.
Ouais, voilà. Ouais, du coup, forcément, le Néerlandais qui est passé devant le Britannique.
Sachant qu'il y a eu une discorde dans l'équipe entre Hamilton et son écurie pour justement un changement de pneu où lui, il refusait de rentrer au stand et il s'est avéré que c'était le mauvais choix, quoi.
Et toi, du coup, Cédric, toi qui suis donc la F1, qu'est-ce que tu penses de tous ces changements, de toutes ces lois? Tu penses vraiment que la FIA est en train de tuer
la F1? On tue le spectacle, ça c'est sûr.
Ouais.
Autant, alors il y a des changements qui étaient nécessaires. Je pense au fameux arceau de sécurité qui était décrié avant d'arriver, qui a fait ses preuves, heureusement, j'ai envie de dire, d'un côté. Bon, on s'en serait dispensé, hein, bien sûr. On pense à l'accident de Sébastien... pas Sébastien Bourdais...
Grosjean.
De Grosjean, voilà.
Romain Grosjean, oui.
C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette pièce-là, il ne serait plus de ce monde. Mais
ouais, effectivement.
À côté de ça, voilà, dès qu'il y a des petits accrochages dans les premiers tours, ça a tendance à sanctionner de pénalités. Sauf que prendre une pénalité de 5 secondes, à ton arrêt au stand ou la prendre dans les tours qui suivent, c'est pas la même chose. Donc c'est, je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir là-dessus. On peut pas laisser à un moment tu sais que t'as 5 secondes à prendre, tu les prends dans, je sais pas, les 2-3 tours qui suivent, forcément tu perds des places puisque généralement c'est serré à ce moment-là. Mais c'est pas quand t'as fait un écart d'une dizaine de secondes sur celui qui est derrière et que tu sais que tu vas rentrer avant lui, tu vas ravitailler, tu vas mettre un peu plus de temps, mais au final, lui, quand il va ravitailler, t'as la possibilité, si la piste s'est dégagée, de récupérer les 5 secondes que t'as de pénalité. Donc, je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à revoir, et puis, oui, peut-être laisser un peu plus les pilotes s'exprimer, et puis arrêter de budgéter la F1 comme elle est budgétée, c'est-à-dire il ne faut pas que ça dépasse tant, il faut que c'est tant de moteurs. Ça évitera aussi qu'on ait des courses où ça attend et ça ne fait rien, quoi.
Max, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la Formule 1 ?
J'ai pas vu les litiges et tu m'as appris voilà notamment au niveau des sanctions différentes hein, pour les changements de moteur. Mais globalement, que ce soit sur la F1 ou sur plusieurs autres sports, j'ai l'impression que comme tu l'as dit, hein, l'athlète est de moins en moins mis en avant et on le prend de plus en plus pour un juste pour un billet. Soit qui court sur un terrain, soit qui pilote une voiture.
Ouais, un objet quoi.
Voilà, c'est terrible. Mais là, tu parles de la FIA, mais il y a la FIFA aussi qui fait ça.
C'est toutes les grosses
organisations. La FIBA, toutes les fédérations internationales de sport qui, de plus en plus, changent des règles au dernier moment. Privent les joueurs, les sportifs de certains droits qu'ils pouvaient avoir avant. Ils sont en train de modifier et de modeler les sports à leur manière, dans un but purement lucratif. Donc
c'est un débat vraiment qu'on pourrait avoir. Ouais. Plus tard dans les futures émissions.
Mais justement, l'exemple de la FIA peut emmener et peut nous faire qu'on peut s'étendre justement à l'international et sur l'ensemble des sports. Ouais. Parce qu'on tend de plus en plus malheureusement à
ça. On a appris d'ailleurs aujourd'hui, hein, pour rebondir sur un autre sport, sur que la FIFA n'allait autoriser entre guillemets qu'une semaine de repos entre la fin des championnats et le début de la Coupe du Monde 2022, qui, on le rappelle déjà, est à contre-courant du calendrier.
Ce jour en décembre 2022.
En novembre-décembre. Et du coup, effectivement, fin de championnat, je crois le 11, et reprise de la Coupe du Monde dès le 18, enfin une semaine après. Donc ça, on pourra évidemment en reparler. Je pense qu'on trépigne à l'idée de contester toutes ces décisions.
Déjà que les listes des blessés augmentent d'année en année. Là, j'ai hâte de voir... pour fin 2022, la liste que ça va être.
On va avoir de la diplomatie, à mon avis, dans les clubs.
On va voir.
On va faire tout de suite une petite pause musicale et on reviendra juste après pour parler du Ballon d'Or et également parler de futures stars du sport français. On va tout de suite s'écouter Aurel San et son titre « Dans ma ville, on traîne ».
Entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. Après 22h tu croises plus de gens, comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent, quelques mecs de la fac en troisième mi-temps, qui devraient pas trop s'approcher du bord, quand ils vont se terminer sur le port. Dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville, là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le caddie des parents ralenti devant Pizza Del Arte, pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers, près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier, où tu peux
peux voir les grandes tours des quartiers où l'architecte a cru faire un truc bien. Si je rappais pas, j'y serais jamais allé. Parce qu'on se mélange pas tant que ça, la douche vient. Après, y'a des champs, y'a plus rien. Si tu vois de la fumée quand tu reviens, c'est que dans les usines, pas très loin, on se calcine, on s'abîme, on fait du carburant pour la machine. À côté des pavillons rectilignes, où on pense à ce que pense la voisine, où on passe les dimanches en famille, où on fabrique du blanc fragile. Longe le canal, prends le périph', t'arrives à la salle où j'ai raté des lay-ups décisifs. Pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent, au milieu des grues, là où y'a les bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes, où les parisiens nous trouvaient tellement nuls, où tu vois l'Angleterre derrière la brume. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout pour nous rappeler qu'on y passera tous et tu seras de retour en ville. Où les bourges font les courses et les punks mendient, où y'a des clochards dont tout le monde connaît les noms. J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coups de tesson devant l'épicerie, celle qui est toujours ouverte près du château, c'est Douve et c'est légende urbaine. J'ai fait des mariages, des enterrements dans les mosquées, les églises et les temples sous un crachat normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite et fin de votre émission sportive Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur internet via www.radio-g.fr. On est de retour donc avec toute l'équipe. On va maintenant parler football. Max, tu vas nous parler du Ballon d'Or, le trophée, on va dire, qui fait le plus parler chaque année, et puis surtout cette année-là, puisque c'est la première fois depuis 2 ans que le Ballon d'Or est remis. L'année dernière, il n'y avait pas eu d'attribution. Et bien là, ça va être le cas avec beaucoup de suspense. Mais dans la liste des 30, j'ai l'impression qu'il y a pas mal, entre guillemets, d'erreurs.
Il y a pas mal d'erreurs, et surtout qu'il y a pas mal de joueurs. Alors oui, j'allais dire, on se demande ce qu'ils font là, du coup, c'est des erreurs, comme tu l'as dit. Mais on voit très peu de favoris se dégager. Alors je vais essayer de la citer sans que ce soit trop ennuyeux. Il y a César Azpilicueta. Ok, je suis d'accord, il fait une grosse saison, que ce soit avec l'Espagne où il va en finale de Ligue des Nations, avec Chelsea où il remporte la Ligue des Champions, pas de problème. Nicolò Barella, qui a été, moi je trouve personnellement, un très bon milieu de terrain cette saison. Les deux prochains, Bonucci, Chiellini, je m'interroge sur leur présence dans cette liste. Voilà, même s'ils remportent l'Euro, j'invite tout à chacun de regarder attentivement l'Euro de ces deux personnages, puis après d'envoyer un message sur le Facebook ou sur le Twitter de l'émission et me dire « Non Max, tu dis n'importe quoi, ils méritent leur place, il n'y a pas de souci. » Karim Benzema, voilà, je pense que le doute n'est pas permis, il mérite entièrement d'être ici, comme Kevin De Bruyne, comme Ruben Dias, comme Donnarumma, Bruno Fernandez également est présent, Phil Foden qui est là. Pareil, pour moi, c'est pas archi mérité, sachant qu'il a pas beaucoup joué à l'Euro. Erling Haaland est là, bien évidemment. Jorginho est présent. N'Golo Kanté, Harry Kane également. Simon Kier qui a été mis en avant par France Football. Alors là, je trouve que c'est un très bon point de la part de France Football. Simon Kier qui n'est pas là pour ses exploits sportifs durant cette saison, mais pour son exploit humain. Hein. On se rappelle tous de son comportement héroïque face à l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors de l'Euro. Donc c'est une mise en avant plutôt méritée sur un comportement humain pour Simon Kier. Mais ça aussi, je peux comprendre que ça fasse débat. Ensuite, on a Lewandowski, bien évidemment, Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mason Mount, Gérard Moreno, Neymar, Pedri, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Raheem Sterling et Luis Suarez qui terminent cette liste. Alors bon, je me suis interrogé, comme vous avez pu le voir, sur plusieurs noms. Est-ce que, messieurs, il y a d'autres joueurs, vous demandez ce qu'ils font dans cette liste, des joueurs que je n'ai pas encore cités, ou alors vous voulez rebondir sur un de mes propos?
C'est vrai que Simon Kier, d'un point de vue purement footballistique, forcément, c'est très contestable. Après, effectivement, tu le disais, c'est quand même tout à l'honneur de France Football de mettre un joueur qui a été humainement sur le terrain, irréprochable en tout cas, que ce soit avec le Danemark et que ce soit avec donc cet accident tragique, qui a failli être tragique avec donc Eriksen. Effectivement, oui, le duo Chiellini, Bonucci, est très peu, enfin, est difficilement justifiable. Je me souviens, je crois que j'ai vu en direct les petites annonces faites sur la chaîne L'Équipe, avec donc normalement voilà, ça répertorie un peu tout ce que le footballeur a fait pendant la saison. Et puis bah Chiellini, on le voit juste soulever le trophée avec le brassard de capitaine. On le voit aussi
il a sorti Jordi Alba,
voilà, cette fameuse grand scène cette fameuse scène en demi-finale où il prend Jordi Alba pour son pote juste avant
une séance de tir au but
qui vraiment il y a un enjeu énorme et lui il est au bar du coin avec son pote les deux, enfin j'ai du mal à les voir. Pareil pour Foden, Sterling, pareil, ça me paraît peu justifié, on va dire, mais dans l'ensemble effectivement il y a quand même des noms qui ne méritent pas. Il y a aussi des noms qui mériteraient, je pense à Hakimi, à Marquinhos ou à d'autres qu'on n'a pas encore cités, mais globalement, après moi là-dessus, sur la liste des 30, c'est vrai que c'est, enfin je trouve que c'est vraiment une liste officieuse, c'est-à-dire que tout ce qui intéresse vraiment, c'est le haut du classement, c'est le nom qui va remporter le Ballon d'Or, c'est potentiellement podium, mais c'est vrai que bon, qui va être 27, 29, c'est pas forcément intéressant, mais t'as raison Max, il faut aussi récompenser ceux qui ont fait des bonnes saisons parmi ces 30, et c'est pas rien pour certains joueurs.
On viendra justement sur les joueurs absents, on a évoqué quelques-uns, mais on reviendra sur cette liste-là. Toi Cédric, quel est ton avis sur cette liste exhaustive du Ballon d'Or?
Ils sont où les gardiens?
Ah oui, c'est vrai.
Il y a un seul gardien, c'est Donnarumma.
Ouais, mais...
Mais il a fallu qu'il soit meilleur joueur de l'Euro pour être sélectionné, quoi.
C'est ça, voilà, mais je veux dire, enfin, il y a quand même des gardiens qui méritent.
Il y a pour moi le plus grand absent de cette liste qui est un gardien.
Ouais, c'est Edouard Mendy,
le goal de Chelsea qui fait une première saison en Angleterre remarquable.
Même
et qui gagne la Ligue des Champions en plus. Donc c'est fou d'avoir un gardien, de peu mettre en valeur ce gardien-là qui réalise peut-être la plus grosse saison de sa carrière.
Même le gardien de Lille, je veux dire, au vu de la saison qu'il a fait. L'année dernière, ce que Lille est en Coupe d'Europe.
Non, ils se sont fait sortir rapidement.
Voilà, mais il fait quand même une saison costaud, il maintient son équipe. J'aurais pas trouvé ça choquant qu'il soit dans la liste des nominés, quoi.
Ouais, après, je pense qu'il y a aussi d'autres gardiens qui méritent plus que Mike Maignan parce qu'il a pas cette dimension européenne et internationale.
Pour l'instant, il l'a pas, ouais.
Mais il fait une saison meilleur gardien de Ligue 1. Hein, donc,
même Ederson, ça aura pas été logique.
Ouais, clairement.
Le gardien de Manchester City qui était un petit peu en demi-teinte ces dernières saisons, qui cette saison, moi j'ai trouvé vraiment. Qui a failli faire passer un cap à City. Notamment, en tout cas, c'était le cas en championnat, puisqu'ils ont été champions. Et puis en Ligue des Champions, ça a failli payer. Mais ouais, effectivement, peu de gardiens. Et comme je disais, ouais, Donnarumma, il a fallu qu'il soit vraiment meilleur joueur de l'Euro pour qu'il soit sélectionné. Sinon, les autres sont passés à la trappe.
Ouais, puis il y a des joueurs, tu en as cité, on a parlé de Raheem Sterling, qui pour moi ne fait pas une saison. Alors, il fait une bonne saison, mais pas une saison extraordinaire.
J'ai même envie de dire, il a déjà fait mieux.
Et puis surtout qu'il a fait mille fois mieux. Pareil un peu pour Phil Foden, qui a été sur le banc pendant l'Euro. Même s'il a beaucoup joué avec Manchester City, il n'a pas été très très décisif. Donc ça, c'est un truc qu'on peut reprocher. On va parler très vite fait de Neymar. Bon, évidemment que quand on connaît la qualité du joueur, on n'a pas le droit de s'interroger sur sa présence ici, mais quand on voit la saison passée de Neymar et surtout le début de saison de Neymar, là on peut vraiment remettre en cause sa place dans ce classement, parce que une Copa América, une finale où il est absent, un début de championnat où il est plus qu'absent, on se demande même s'il est sur la feuille de match, et une saison dernière encore une fois où on attend beaucoup mieux de lui, beaucoup plus de lui. Donc voilà, encore une fois, ça peut être un des joueurs qui pose question. Luka Modric aussi, même si on connaît la qualité du joueur, il n'a pas fait une saison non plus si extraordinaire que ça. Il y a un autre joueur, il y a un autre cas qui est intéressant, c'est le cas de Gérard Moreno. Alors on se dit, mais qu'est-ce que Gérard Moreno est là? Mais je pense que France Football a été intelligent et a décidé de donner un peu raison à tout le monde, notamment avec le cas Simon Kier. Ils se sont dit, il n'est pas là parce qu'il a fait une grosse saison, il est là parce qu'il a sauvé la vie de quelqu'un, ou alors il a fait un geste humain incroyable avec Gérard Moreno, c'est juste parce qu'il a gagné la Ligue Europa. Je pense que c'est juste ça. Ouais. Ils avaient un, je vais pas dire qu'ils ont des quotas à respecter, mais voilà, je pense qu'ils ont essayé de donner un peu à manger
en valeur.
Après, si tu veux faire vraiment un hommage comme ça, tu crées un prix un peu spécifique.
Non, mais après, ouais, Gérard Moreno, c'est bien, ça donne un peu de relief à la Ligue Europa. Forcément, mais après, effectivement, si on va chercher la petite bête, effectivement, il y a peut-être meilleur attaquant que lui cette saison. Mais bon, après, pour moi, c'est pas le plus choquant. Effectivement, ouais, tu disais Neymar, c'était le nom qui a fait qu'il est là aujourd'hui. Et je trouve, en tout cas, dans cette liste, qu'il y a beaucoup d'importance mise par rapport aux compétitions que sont la Copa América et l'Euro, avec donc Neymar qui a été élu comme meilleur joueur égalité avec Messi. Je pense que ça a joué, mais au final, si tu enlèves ça, je suis pas sûr que Neymar soit dans la liste. Et voilà, pareil pour Messi, après, même s'il a quand même fait une bonne saison, je vais pas quand même me faire pas dire ce que j'ai pas dit. Mais
tu l'as pas dit.
Sa saison au Barça est pas
là. La fin de saison, elle est bonne parce qu'il termine
la fin de saison, mais au niveau du reste, sur toute la saison.
Après, on sait que Neymar, Messi et même Cristiano, hein, on peut parler du cas de Cristiano qui a fait une saison.
Meilleur buteur aussi.
Hein. Une des pires saisons de sa carrière, on peut le dire. Bah, hein, même s'il fait une très grosse saison, il gagne aucun titre. Il est de moins en moins important. Enfin, il joue à la Juve, donc il était de moins en moins important. Il était clairement sur le déclin. J'espère pour lui qu'il va repartir de plus belle. Mais même là, il y a des joueurs qui font les mêmes statistiques que ces joueurs-là, mais qui ne sont pas dans la liste. Et ça, c'est dommageable. Mais on sait que c'est des joueurs qui sont intouchables et qui seront dans cette liste de Ballon d'Or.
Même Mbappé, pour moi, ça peut se discuter sur sa saison.
Ça peut aussi se discuter. Mais
si performant que ça, au final.
Moi, je trouve
qu'il met 45 buts cette saison,
il rate son euro, certes, mais après
oui, par contre, ça c'est vrai,
la fin de saison 2020-2021
je la
trouve même très bonne.
On va parler donc j'ai une petite liste sous les yeux des absents, et c'est vrai qu'il y a des noms, ça fait mal au cœur de voir des joueurs comme ça absents. Marquinhos qui, pour moi, sur ces deux dernières saisons, le meilleur défenseur central au monde, voilà, j'ai pas peur de le dire.
Y a pas peur.
Et de voir un joueur comme ça ne pas être sélectionné, franchement, ça fait mal au cœur. Chiesa aussi, qui fait une très grosse saison, on se demande pourquoi il est pas là. Di Maria qui fait une finale de Copa América, qui donne le titre à l'Argentine, qui fait, et même qui est toujours exemplaire depuis tant d'années avec le PSG, avec l'Argentine. Pareil, on se demande pourquoi il est pas là. On a parlé d'Edouard Mendy. Paul Pogba aussi, qui aurait peut-être pu faire partie de cette liste. Alors là encore, c'est mitigé, même s'il fait un gros euro, malheureusement, il va peut-être pas assez loin pour prétendre une place au Ballon d'Or. Et dans cette liste, je suis étonné de voir Joshua Kimmich. Alors de voir dans la liste des absents, justement.
Ah oui, pardon.
De voir Joshua Kimmich, parce que c'est un milieu défensif. Oui, c'est pas lui qui va marquer 30 buts par saison. Mais je me demande qui regarde les matchs de foot. Est-ce que les mecs à France Football regardent les matchs de foot? Ne pas mettre un joueur comme Joshua Kimmich dans la liste des 30, franchement, c'est très bizarre. Et il y a des choix, vraiment, dont celui-là, qui en étonne plus d'un.
À noter qu'il y a aussi un fait que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, on parle souvent des noms qui brillent, des attaquants. C'est vrai que c'est souvent ça qui est retenu. Il y a donc un seul gardien, et ça, on peut le déplorer. Il y a quelques défenseurs centraux. Mais à noter qu'il n'y a... si on ne considère pas Azpilicueta comme un latéral, il n'y a aucun... latéral, que ce soit gauche ou droite, dans cette liste, et ça montre à quel point certains postes sont évidemment désavantagés par rapport au poste d'attaquant, que ce soit milieu offensif ou ailier ou buteur. Et tu disais donc apparemment milieu défensif. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins de joueurs à ces postes-là dans cette liste, parce que voilà, c'est des noms qui malheureusement ne brillent pas assez.
Et avant de te donner la parole pour passer à ta chronique, il y a aussi le trophée Raymond Coppa qui sera remis le même jour que ce Ballon d'Or. Et là aussi, on a vu une liste, et pour le coup, une liste qui, je pense, va plaire à tous les amateurs de football parce que elle est quasiment parfaite, cette liste. Pour rappel, le trophée Coppa, pardon, c'est le trophée qui sera remis au meilleur footballeur de 20 ans et moins. Il me semble que c'est les moins de 20 ans tout court. Et dans cette liste, on retrouve Jude Bellingham, l'anglais qui joue au Borussia Dortmund, Jérémy Doku, le belge qui joue à Rennes. Il y a un autre joueur du championnat de France, c'est Nuno Mendes, le néo-parisien. On retrouve également Ryan Gravenberch, le néerlandais, Mason Greenwood, Jamal Musiala, Pedri qui réussit à être et dans la liste du Ballon d'Or et dans la liste du trophée Raymond Coppa, Giovanni Reina de Dortmund également, Florian Wirtz du Bayer Leverkusen et Bukayo Saka. Voilà, je pense que cette liste, y a pas d'erreur. Hein,
Giovanni Reina.
Haaland, il est devenu trop vieux du coup.
Haaland et Mbappé sont des gens trop vieux.
Mbappé, je savais que l'année dernière, il y a deux ans, c'était sa dernière
possibilité
de le gagner. Ouais.
Là, cette année, c'est des joueurs nés en 2001
et en dessous.
Et en dessous, effectivement. Donc, plus de joueurs nés en 2000. Et donc, effectivement, Haaland n'a pas pu gagner ce trophée.
On sait aussi que du côté des filles, il y a eu aussi quand même pas mal de surprises. Surtout du côté des joueuses américaines qu'on avait l'habitude de voir et qui ont été remplacées apparemment plus par des joueurs canadiennes.
Et également moins de joueuses lyonnaises.
Oui.
Lyon n'a pas gagné.
C'est plus des parisiennes du coup qu'on a remplacé.
Enfin, ni la Ligue 1, ni la D1 Arkama et ni la Ligue Champion. Donc effectivement, on a seulement Wendy Renard et on a également donc deux parisiennes avec donc Marie-Antoinette Katoto et Keldiatou Diani. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, effectivement, on suivra tous ces résultats. Max, je sais pas si tu as la date sous les yeux de la remise de tous ces trophées. Je crois que ce sera une grande soirée avec tous les ballons d'or, donc les trophées. Je crois qu'il y a aussi les trophées Yashin avec les meilleurs gardiens.
Oui,
on
n'en
a pas parlé. Il y a Mendy notamment qui pourra peut-être le remporter.
Et on espère qu'il va le remporter parce qu'il le mérite.
Effectivement, et donc la grande soirée, ce sera quand?
Et donc cette soirée de gala est prévue le 29 novembre prochain, donc on a encore le temps de débattre, de cracher sur toutes les fédérations de football, de cracher sur France Football.
De la Coupe du Monde?
Alors 2021.
Ah, 2021, oui.
Un an plus tard, on aura la Coupe du Monde. Mais par contre, peut-être que l'année d'après, la remise du trophée sera forcément modifiée à cause de
peut-être que ce soit après la Coupe du Monde, ce qui serait logique.
Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de cette cérémonie juste avant et juste après, avec, on espère, un Karim Benzema avec un ballon en or le 29 novembre au soir.
Je te le fais pas dire. On va donc enchaîner tout de suite avec ma nouvelle rubrique qui sera récurrente cette saison dans l'émission. Je l'ai appelée Pépite Bleu Blanc Rouge, une chronique qui vous fait découvrir un sportif ou une sportive qui va marquer à coup sûr le sport français dans les années à venir. La première pépite dont je vais vous parler n'est pas une petite pépite, car quand on culmine à 2m19 à seulement 17 ans, on n'est clairement pas petit. C'est le cas de Victor Wembanyama, géant parmi les géants du basket français. Le natif du Chesnay dans les Yvelines fait évidemment parler de lui par sa très grande taille. Lui qui mesurait déjà 1m91 à seulement 11 ans lorsqu'il débute le basket à Nanterre. Mais Victor n'est pas seulement un joueur précoce par ses mensurations, il est aussi par son talent. Pas encore majeur, le pivot français a déjà pu côtoyer les rangs professionnels de Nanterre, son club formateur, et également les rangs du Pôle France, club de la fédération qui évolue en Pro B. Il est déjà confirmé également par le quotidien L'Équipe qui le qualifie comme un grand talent de venir, soulignant son toucher de balle et sa mobilité rarissime pour sa taille. Le géant tricolore a récemment fait parler de lui à l'occasion de la médaille d'argent décrochée par l'équipe de France des moins de 19 ans lors des championnats du monde. Les Bleuets perdront donc en finale face aux États-Unis, mais Victor pourra se consoler puisqu'il figure dans le 5 majeur de la compétition, compétition qui s'était déroulée donc en juillet dernier. Un peu plus tôt, le 29 juin, Wembanyama, c'est vrai que c'est un nom assez compliqué
à prononcer.
On l'appellera Victor. Donc Victor passait officiellement un nouveau cap en signant 3 ans à l'ASVEL, club important du championnat de France, dirigé par Tony Parker et évoluant en Euroleague. Cette saison sera donc celle sûrement de l'éclosion pour celui qui est promis à un bel avenir dans la raquette de l'équipe de France de basket. On va donc continuer avec une nouvelle pépite. On va parler de handball féminin. Cette pépite dont la carrière devrait prendre une trajectoire assez particulière. En effet, la pivot du Paris 92, Adja Ouattara, avait connu ses deux premières sélections la semaine dernière sous le maillot des Bleus à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2022. Malheureusement, la néo-internationale française s'est blessée gravement lors du second match face à l'Ukraine. Elle a été donc victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et sera absente de longs mois. Évidemment, quand on est très jeune joueuse comme ça et qu'on éclot au grand jeu du grand public, forcément une blessure à ce moment-là de la carrière, ça fait toujours mal. Voilà, elle a donc 19 ans. Elle a donc été formée au Paris 92. Il faut savoir qu'elle porte également donc le numéro, on peut le dire, de son club, on va dire ça comme ça, puisqu'elle porte donc le numéro 92. Elle a notamment donc prolongé son contrat avec son club formateur. Donc c'était en février dernier, puisqu'elle a donc signé un contrat jusqu'en 2024. Le club a d'ailleurs mis l'accent sur le fait que forcément c'était quelque chose à mettre en avant pour les Jeux de Paris 2024, et donc c'est surtout la bonne confirmation d'une joueuse en devenir qui va donc être très importante dans l'avenir du club parisien, même dans l'avenir de l'équipe de France. Malheureusement, donc cette blessure assez grave va contrecarrer certains plans de carrière, mais en tout cas voilà, Adja Ouattara qui montre déjà qu'elle est un futur espoir du handball féminin. Elle suit d'ailleurs les traces notamment de Pauletta Fopin qui, pareil, très jeune, connaissait déjà ses premières compétitions européennes et mondiales. Voilà, on lui souhaite également donc forcément un bon rétablissement. Et puis voilà, c'est une chose qui promet pour l'avenir. Il faudra évidemment se souvenir quand elle reviendra à son meilleur niveau. Voilà pour les pépites du sport français. Voilà. Souvent dans l'année, évidemment, je vous fera des chroniques hein, sur d'autres jeunes espoirs du sport français. Voilà, ce sera l'occasion d'en parler. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez notamment du géant Victor Wembanyama qui donc culmine à 2m19? Il n'est pas encore majeur, donc il n'a pas encore fini sa croissance. C'est assez exceptionnel.
Oui, justement, mais juste avant de répondre à cette question, donc nouvelle chronique que tu mets en place et qu'on essaiera de réaliser plusieurs fois dans l'année, bien évidemment. On n'a pas encore de nom pour cette chronique. Voilà, on est en train d'y réfléchir. Et donc vous, chers auditeurs, si vous avez voilà une idée de chronique à nous donner, ben n'hésitez pas à aller sur la page Facebook ou le compte Instagram ou encore le compte Twitter, et on se fera un plaisir de vous lire.
Faut pas oublier voilà que c'est en ligne de mire, il y a les JO, donc ça peut avoir un rapport avec le JO dans le titre.
Mais en tout cas, pour rebondir sur Victor, Victor donc Wembanyama.
Tu prononces V.
V ou ouais, bah je ne sais pas.
On verra. Bon, on lui posera la question quand il viendra à l'émission.
Victor, donc, Victor. N'hésitez pas à aller sur votre meilleur navigateur de recherche et à taper Victor Wembanyama. C'est un mec impressionnant.
Oui.
C'est, donc, tu l'as répété, 2m19 pour 17 ans.
102 kilos. Mais 102 kilos, c'est
en muscle.
Et vous le verrez.
Quand on voit les 102 kilos, on peut se dire, mais il est maigre.
Oui, c'est ça.
Il est, bah, en même temps, il fait 2m19.
C'est logique.
Et ouais, c'est donc logique. On voit un mec super grand avec des bras très fins. Vraiment très, très impressionnant. Je connaissais pas du tout ce joueur. Donc c'est sûr qu'on connaît, hein, grâce à sa taille, ça va être un atout majeur dans sa future carrière de basketteur. Donc voilà.
Et c'est vrai que tu parlais de Paris 2024. C'est vrai que ça a été un gros point parce que en même temps, pendant cet été, il y a eu donc ces très bons résultats de la part de l'équipe de France des moins de 19 ans qui ont failli être champions du monde. Et en même temps, il y avait cette médaille d'argent aussi aux Jeux Olympiques. Et donc il y avait toujours ce parallèle entre les Jeux 2024 qui arrivent et puis cette génération qui est très forte et donc avec ce joueur de seulement 17 ans qui est déjà monstrueux.
Il y a sûrement quelque chose à faire de toute façon, faire un mix entre l'ancienne et la nouvelle génération et je pense que oui, à partir du moment où il est bon dans sa saison, on aurait tort de se priver d'un joueur de cette taille, hein.
C'est vrai
que je pense que même en face, même sur les... Souvent, c'est plus dans les pays asiatiques où on a eu quelques cas de grands joueurs comme ça. C'est vrai que on a vu les carrières qu'ils ont eues aussi en NBA. Hein. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour lui, si qu'on lui souhaite, qu'il n'ait aucune blessure grave et s'il garde un bon niveau, je pense qu'il a quelque part sa voie tracée. Quoi.
Et pour la deuxième pépite, donc Adja Ouattara, je voulais revenir sur sa blessure grave. Selon vous, est-ce que c'est à chaque fois une grosse étape? Est-ce que c'est parfois même rédhibitoire? On connaît des jeunes joueurs qui se sont un peu cassés comme ça, pourtant très bons.
Quel âge elle a déjà?
Elle a 19 ans.
19 ans.
Par exemple, je pense, j'avais un autre cas qui m'est venu aussi en tête, c'est Amine Gouiri qui s'était fait aussi les croisés alors qu'il était encore à Lyon. Et finalement, il est revenu fort, mais est-ce que pour vous, ça va être compliqué pour elle de revenir à un bon niveau?
Bah, les croisés, c'est toujours délicat, hein. Même pour une personne lambda, quand on se les fait. La rééducation est quand même assez compliquée. Il y a toujours des petits séquelles. Puis mentalement aussi, hein, je pense qu'il y aura sûrement une période un peu de doute où elle va se méfier deux fois plus de son corps. Donc la moindre petite alerte, ça peut être signe de rechute ou pas. Donc avec son âge, peut-être que c'est un atout quelque part de l'avoir eu maintenant, cette blessure-là. S'il y a un travail de rééducation sérieux et derrière, s'ils prennent le temps de la faire remonter un petit peu à son niveau qu'elle était, je pense pas que ça peut être un handicap en tout cas.
Oui, je partage un peu cet avis-là. Je pense que avoir une telle blessure à 19 ans, c'est moins préjudiciable d'avoir une telle blessure à 28, 29, 30 ans parce que le corps n'est pas habitué. Enfin, le corps n'a pas 10 années de sport, de foot. Enfin, de foot.
Forcément.
Enfin, je ramène tout au foot. De sport professionnel dans les jambes. Donc, forcément, que ce sera une très, très grosse épreuve pour elle. Mais comme l'a dit Cédric, ce sera surtout mentalement que ça va être un vrai effort puisque va falloir qu'elle revienne plus forte et de prendre des risques justement parce que elle doit se dépasser, elle doit prendre des risques. Et voilà, on espère en tout cas qu'elle va réussir à faire abstraction de cette blessure et on espère surtout que, les grosses blessures qui arrivent assez tôt dans la carrière ou même au cours de la carrière, on sait que malheureusement derrière le corps est marqué et qu'il y a des rechutes assez rapides qui peuvent arriver à tout moment. Donc avoir une blessure comme ça à 20 ans, ça, à 19 ans, ça peut aussi être préjudiciable pour la suite.
Effectivement, on aura donc l'occasion la semaine prochaine de recevoir l'étoile Angers Basket, hein, c'est la première fois de la saison qu'on les reçoit. On vous redira évidemment sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, l'identité de l'invité qui viendra avec nous dans le studio. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de Radio G et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
up? Mm-hmm. Nico? Yeah, it's me. Yeah.